Même audio, vous ne l'avez pas vu, vous pouvez l'entendre.
On va commencer. Merci d'être venus si nombreux, si nombreuses. Et la table ronde va commencer. Je vais laisser la parole à Madame Théo, directrice du Musée de la Résistance, et Jordi Font, et directeur du Mémorial démocratique de Catalogne.
Alors, moi, ça va être un mot très rapide pour vous remercier tous, d'être venus, remercier aussi et surtout tous les intervenants de la table ronde qui sont là. Alors, je vais juste les nommer. Diego Gaspar Celaya, qui est docteur de l'Université de Saragosse. Et aussi, je tiens à le dire, on est très heureux que vous soyez dans le comité scientifique du musée pour nous accompagner. Josep Calvet, qui, vous êtes de l'ERIDA, docteur de l'Université de l'ERIDA, c'est bien ça, du Mémorial aussi démocratique. Virginie Fauré, qui est ancienne médiatrice et documentaliste du MDRD, du musée, et qui a fait sa maîtrise sur Conchita Ramos. Et Henri Farini, le président de l'Amicale des Guerrilleros, et également, bon, quand même, il faut le signaler, professeur honoraire des universités. Donc j'en suis très heureuse que vous soyez tous là. Et je passe donc maintenant la parole à Jordi Font, qui est le directeur du Mémorial de Catalogne.
Merci beaucoup. Je vais essayer de parler aussi en français. Comme la directrice a dit, je suis le directeur du Mémorial démocratique de la Catalogne. C'est le Mémorial démocratique, c'est un organisme inscrit à la Generalitat, au gouvernement autonome. Et cette année, le gouvernement de la Catalogne nous a confié l'organisation des actions auprès le centenaire de la naissance de Conchita Granger Ramos. Et cette action que nous réalisons aujourd'hui ici, au Musée de la Résistance et de la Déportation à Toulouse, c'est une des actions que nous avons organisées en le cours de l'année. Au cours de l'année 2025. Nous avons commencé les activités le passé mois d'avril, avec l'annonce nous disons l'année Conchita Granger Ramos. Nous avons continué avec un acte central que nous avons fait à la Torre de Cabdella, le lieu de naissance de Conchita. Maintenant, nous sommes ici à Toulouse, très ravis d'être ici dans ce musée, parce que nous aimons beaucoup venir à Toulouse et collaborer avec le Musée de la Résistance et la Déportation. Nous avons prévu aussi des actions comme l'exposition qu'il y a dehors, à côté de cette salle. C'est une petite exposition autour de Conchita Granger. C'est une exposition qu'il y a une version catalane et une version française et qui va voyager surtout pour des lycées catalans. Et aussi, je pense que demain, l'exposition ira à Paris, non? Paris, c'est ça. Et aussi, après l'action que nous ferons aujourd'hui à Toulouse, il est prévu aussi des actions avec des lycéens de la province de Lleida. Et aussi une publication d'une biographie de Conchita Granger Ramos qui est en train de... que Josep Calvet sera l'auteur. Il est prévu que cette publication apparaît, je pense, peut-être l'année prochaine, non? Je pense, au début de 2026. Bon, pour ma part, rien de plus. J'espère que la table d'aujourd'hui va être très riche et je suis aussi très content, comme a dit la directrice, de pouvoir de cette table, no? Parce qu'il y a des personnes que je connais bien et je pense que va être, comme j'ai dit, très, très riche. Merci beaucoup.
Merci, Jordi. Avant de commencer la table ronde, j'aimerais vous annoncer qu'on est ravis de compter parmi nous et Christian Ramos, fils de Conchita Ramos, qui est présent aujourd'hui dans cette salle. Et d'autres membres de la famille de Conchita Ramos, du neveu et de petite nièce. Merci beaucoup. On est ravis également. Merci. Et la table ronde, on va avoir un temps différent. Dans ce premier temps, Il y aura Diego Gaspar Zelaya et Josep Calvé qui vont intervenir. À la fin des deux interventions, on va avoir une petite bord de scène d'une quinzaine de minutes. Et dans son deuxième temps, il y aura les interventions de Virginie Faure et Henri Farini.
Bon, bonjour à tout le monde. Merci de m'avoir invité à faire partie de cette table ronde. Je suis très heureux de me rendre ici à Toulouse, encore une fois, parce que je suis déjà suspicieux habituel de ce musée-là. Mais je suis très content de revenir. Aujourd'hui, vu qu'on est dans une journée consacrée à la mémoire de Conchita Granger, tout d'abord, il m'avait proposé de parler un peu, de faire une contextualisation de tout ce qui est l'exil espagnol et, au niveau de la France, comment est-ce que ces femmes et ces hommes y sont arrivés au début 1939, etc. Et quand on a commencé à faire un peu les structures de cette intervention, on s'est dit que peut-être que c'est plus intéressant de ne pas parler de l'exil, encore une fois, à Toulouse, où vraiment l'exil est, je crois, bien connu par le public. Et par contre, peut-être qu'on avait l'opportunité de réflexionner juste un peu. En fait, j'ai 15 minutes. En fait, il va falloir que je mette le... Ouais, d'accord, 10 minutes, d'accord. Je mets le chrono. Qu'on avait l'opportunité, effectivement, de parler de la capacité d'agence, de l'engagement et de la contribution des femmes espagnoles à la résistance. Par contre, c'est un sujet sur lequel on ne parle pas tellement. On n'a pas tellement parlé, en fait. Aujourd'hui, on a mangé tous ensemble avant de venir ici. Et effectivement, on parlait avec Henri que, effectivement, il y avait une grande opportunité, on dirait, pour continuer à bosser sur cette participation qui est vachement liée à la déportation, comme on l'a vu effectivement dans le cas de Conchita, mais pas seulement dans le cas de Conchita. On peut parler d'autres femmes. J'ai toujours dans la tête Paquita Casasnovas, mais aussi Alfonsina Bueno. Pourquoi pas, vu que moi je viens de Saragosse, pourquoi pas ne pas parler de quelqu'un qui vient de Saragosse aussi ou qui venait de Saragosse aussi. Donc c'est ça que j'ai en tête, de réfléchir et de vous proposer une réflexion un peu élargie sur la participation des femmes et françaises et étrangères, pas seulement des Espagnols, à la résistance ici en France. J'aimerais bien commencer pour dire que cette participation, pour moi, ça constitue une double transgression, on dirait. Il y a d'abord la transgression de l'ordre traditionnel des sexes qui était en vigueur dans la France des années 30. Il y avait aussi la transgression de l'ordre qui a été imposé par l'occupant. Et dans le cas des Espagnols, il y avait aussi la transgression via sa participation dans la résistance, on verra, de l'ordre que, effectivement, ces femmes, ils sont franchies en tant que l'ordre traditionnel importé d'une Espagne qui était émigrée ou exilée, effectivement, en France pendant le long premier tiers du XXe siècle. C'est intéressant d'introduire déjà le concept de immigré et exilé, parce que si on regarde bien, c'est ce qui s'est passé au niveau de la participation des femmes espagnoles dans la résistance. Bien sûr qu'on trouve des exilés, bien sûr qu'on trouve des femmes qui ont quitté l'Espagne après avoir continué à lutter pendant toute la guerre d'Espagne. Mais on trouve aussi des femmes qui étaient déjà en France, qui étaient venues en France normalement dans le décennie de années 20, et qui sont effectivement pris conscience d'une conscience résistante ici à partir des années de 1940, et qui sont quand même participés à la résistance. Qu'est-ce qu'elles ont fait dans la résistance. C'est ça la question, en fait. Enfin, à chaque fois qu'on voit leur participation, qu'on analyse leur participation, on voit bien qu'ils étaient des agents de réseau de résistance, des agents, bonjour, des agents d'information, des agents d'action, et bien sûr des agents qui sont participés des réseaux d'évasion aussi, et que leur expérience dans la résistance a été similaire en fait, en termes de conditions matérielles, on dirait, à celles vécues par des combattants de l'ombre dans la clandestinité. C'est un autre concept à retenir, parce que c'est vraiment la clandestinité qui va définir matériellement la réalité de ces femmes. Mais il faut effectivement souligner que dans la société clandestine où a été lieu leur engagement dans la résistance, bah, tout ce qui était leur tâche, le tâche qu'on était confié à ces femmes, c'était énormément lié à des pratiques qu'on dirait de résistance civile. Ça veut dire de tâches de courrier, de liaison, de transport, de renseignement, d'hébergement, de logistique, de falsification de documents, etc. etc. Donc déjà, on a vraiment une vision tellement définie de tâches sexuées de résistance pour ces femmes qui n'ont pas eu l'opportunité de s'engager dans le rang de l'armée française de l'époque, même si la loi qui portait sur l'organisation de la nation dans le temps de guerre de 11 novembre, je ne sais pas, c'était 1938, si je ne me trompe pas, c'est pas la distinction entre hommes et femmes à l'heure de servir dans l'armée. Après, la réalité a été complètement différente. Je suis pas rentré dedans dans une analyse profonde de à quel point ils sont faits et où ils ont fait cette activité. On voit vraiment l'image globale. Mais il faut bien tenir en compte que effectivement il y a eu une autre facteur, on dirait, qui est essentiel ou qui me semble essentiel à l'heure de parler de ces femmes dans la résistance, c'est la instrumentalisation évidente du genre qui sont vécues, et parce qu'il y a eu effectivement des différents responsables de réseaux de résistants, d'organisations de résistants, qui considéraient effectivement que certaines tâches qui ont été confiées à des femmes pouvaient être exécutées avec plus de chances de succès par ces femmes qui estimaient qu'ils auraient moins de difficultés à dissimuler tout ce qui était l'activité clandestine face à l'occupant, face à des soldats, etc. Là, pour revenir juste dans un peut-être exemple très rapidement, il faut peut-être que revenir sur tout ce qui s'est passé à Canfranc, par exemple, où il y avait il y avait Albert Lelay qui était effectivement le je sais pas comment ça se dit, l'attaché à la douane, le douanier français, le chef de douanier français, voilà, administratif, la personne qui gérait la douane française à Canfranc, qui était aussi agent de trois réseaux différents de résistance et qui a effectivement bien intériorisé cette instrumentalisation et qu'il a mis en œuvre avec le sœur Pardo, effectivement, à l'heure de faire passer des messages, des documents, etc., dans les trains qui connectaient Pau avec Saragosse, puis via Madrid et avec Lisbonne. Vu qu'on voit un peu à quel point c'était important le tâche, à quel point ces tâches étaient liées effectivement avec comme je disais, des pratiques de résistance civile, peut-être qu'on peut se demander pourquoi il y a vraiment une telle sous-représentation sur ces femmes, parce qu'on connaît. On ne dit pas qu'on connaît rien, mais on connaît très peu de l'activité qu'elles ont fait. Peut-être que, il y a pour moi trois facteurs majeurs qu'il faut absolument souligner. Le premier qui concerne la nature des activités des résistances menées par ces femmes, qui, normalement, on a dit qu'ils étaient dedans la clandestinité, donc on peut bien imaginer qu'ils tenaient à ne pas laisser toujours des traces. On a ces concepts-là de clandestinité qui continuent à effectivement être impératifs. Mais aussi, on revient sur le fait que ces pratiques de résistance civile étaient, on peut le dire, liées à un prolongement de leur tâche habituelle, on dirait, dans de ces scénarios quotidiennes, de ce scénario domestique, comme Dominique Veillon l'avait dit dans ses études. Deuxièmement, il faut souligner absolument que leur activité de résistance était souvent liée à une rupture totale ou partielle avec l'ordre établi, alimenté par le développement de la part des membres de la résistance. C'est ce qu'on appelle, via Laurent Dussault, des sociétés souterraines. Vraiment une double rupture qui repose effectivement sur la transgression qu'on a parlé. Et puis, en troisième lieu, il convient de souligner que la relative invisibilité, on dirait, des activités menées par ces femmes dans la résistance associées normalement au fait qu'une grande partie d'entre elles ont conçu leur engagement comme naturel. Ça veut dire qu'après, ils ne sont rien revendiqués. On échange après la guerre apparaît effectivement comme un double facteur qui contribuait également à faire baisser la taxe, on dirait, de demande de homologation de services prêtés dans la résistance par ces femmes. Non, c'est ce qui est effectivement très intéressant. Donc, juste pour faire une conclusion, on a la clandestinité, on a les pratiques de résistance civile, on a la modestie, on dirait, on a les silences, parce qu'on trouve des silences qui sont volontaires, mais on trouve aussi des silences qui sont pas volontaires, qui sont imposés. On a une législation, on n'a pas parlé, mais on pourra parler d'une législation qui était restrictive vis-à-vis des femmes au niveau de l'attribution de titres de résistance. Et tout ça ne sont quelques-unes des éléments que je veux souligner comme nécessaires, non seulement pour comprendre leur rôle et les fonctions spécifiques de ces femmes dans la résistance, y compris les Espagnols, bien sûr, et qui ont contribué vraiment en France à la lutte contre l'occupant et ses partenaires. Mais aussi, c'est intéressant, ces facteurs, pour aborder, et si vous voulez, on peut le faire dans la question, le contexte politico-juridique qui, après la guerre, a évalué, sanctionné leur participation dans la résistance par des différents types de reconnaissances, qu'elles soient matérielles ou honorifiques. Ça, c'est un sujet sur lequel, si vous voulez, on peut continuer à débattre un peu plus tard. Cependant, il y a une réévaluation de ces contextes qui met également en évidence comme, après le choc initial que l'expérience résistance de milliers de femmes a représenté pour l'ordre traditionnel duquel je parlais auparavant, celui-ci a progressivement a réussi à retrouver une position qu'il considérait comme menacée par la capacité d'action de ces femmes. Il l'a fait dans le cadre d'un triple processus, on dirait. L'instrumentalisation du mouvement de la résistance. Après, il y a deuxièmement la désactivation et l'instrumentalisation d'une grande partie de résistance et des résistants pionniers qui se sont opposés aux troupes allemandes en 1940. Et puis, il y a le troisième élément de ce processus qui souligne précisément comment le retour à la paix en 1945 a mis la fin à cette phase de promotion de femmes, on dirait, pendant la lutte, à tel point que la reconstitution particulière de l'identité nationale française et la réaffirmation de la virilité des hommes ont pris on dirait que la même direction, en fait. Donc, on trouve vraiment une conception, parce que ça va effectivement ça va donner une conception très masculine, très militaire et très nationale, en fait, de ce qu'on appelle la résistance française, ou c'est ce qu'on doit appeler la résistance en France. Donc, ce n'est pas par hasard que dans les processus de réhabilitation nationale de la mémoire, de l'identité occupée, on dirait, dans la France de l'après-guerre, tous ces facteurs ont joué un rôle fondamental pour replacer les femmes dans ces nouvel ordre qui étaient encore une fois marqués par le hétéropatriarcat. Voilà. Et donc, voilà, il y a toujours les deux facteurs majeurs pour moi. C'était la mise en valeur tant de la fonction maternelle que du rôle traditionnel de poste et de mère qui a été revalorisé dans l'après-guerre. Et puis, il y a la libération qui a été, sans aucun doute, le moment où on était jeté les bases du processus de reconstitution de cette identité nationale sur les plans, comme je disais, national, militaire et masculin. J'arrive. Donc, voilà, en définitive, pour moi, c'est une période qui a vu la reconstruction de la masculinité autour de la figure de travailleur, de l'ancien combattant, régulier, irrégulier, n'importe lequel, et du père nourricier, tandis que la féminité, et avec cette féminité, le concours, vraiment l'engagement, le compromis de ces femmes dont je viens de parler, a été vraiment passé à un deuxième plan sur l'image de la mère et la épouse qui étaient dévouées. Enfin, voilà, c'était ça jusqu'ici ma réflexion. Je vous invite à continuer à réfléchir et à me poser des questions après. Merci.
Mémodio, une mémoire sonore.
Merci beaucoup, Diego, pour cette contextualisation de la résistance des femmes. On va laisser la parole à Josep Calvet qui va introduire les premières années de vie de Conchita.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Avant de commencer ma présentation, je voudrais m'excuser pour mon expression en français, surtout pour ma mauvaise prononciation. Je ne parle le français comme Jordi. Toutefois, je vais essayer de faire mon intervention en français. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension. Merci avant tout au musée de la deportació i la resistència per organitzar aquest table rond sur Conchita Granger Ramos. Merci a Cristian i a tota la família de Conchita d'estar ici avui. Jo vaig explicar la vida de Conchita Granger Ramos de Sant Esans, de l'Epigine català, en 1925, a son arrestació en 1944 per sa participació a la resistència on així, ses 18 primers anys. Jo parlaré de ses origins a Capdella, el village on Conchita ha nascido, de ses primers anys a Toulouse, de son retour, el retour de la família Granger, o la família Veleta a Catalunya pendant la Guerra d'Espanya, i el son retorné l'any 36, de la instal·lació de la família en Arieix, de son engagement de la resistència, fins al moment de sa deportació de juliet 44. Abans de començar, ja he dit quelque chose. Conchita no sepa in exilier republicain espanyol. Conchita i la vida a Toulouse depuis anè ben. Conchita se n'hi resistant on així. C'est important de dir. Les origines de Conchita són a Capdella, en petit village de la Catalunya, o Piguiné català, i l'ene a Espui, que és un petit village dans la municipalité actuelle de Torre de Capdella, le 6 août 25. Elle était la fille de Josep Granger Saura. Il est né son père à Pauline, à la Piquine orientale, et de Maria Veleta, que il est né à la Plana de Mont-ros, que c'est un petit village de la Vallée. Conchita, c'était la cinquième enfant du couple. Le Père Granger travaillait comme charpentier pour l'entreprise qui construisait des centrales hydroélectriques dans les vallées de la rivière Flamisell, qui est une rivière dans les Pyrénées catalanes. La famille de sa mère tenait un petit hôtel dans la municipalité. Quelques mois après sa naissance, c'est difficile de concréter si unos meses o unos años, elle a parti à Toulouse avec son oncle Jaume Beleta, la femme de Jaume Beleta, Elvira Ibars, et la fille d'Elvira, Maria Castelló. De l'or, la vie de Conchita fut étroitement liée à la celle de son oncle et de sa tante. Écoutons, s'il vous plaît, la voix de Conchita pour raconter cette histoire.
C'était mon oncle, celui que mes oncles m'ont élevé, moi, ici à Toulouse. C'était ma tante et mon oncle, celui qui a fait la résistance, là, que je vous explique, de la Riège. Donc je les appelais papa et maman, malgré que moi j'avais mes parents à Capdélia. Alors seulement... Mon père travaillait, mon vrai père alors, et le père Granger, pour faire la différence. Il travaillait pour l'EDF suisse, et ils avaient fait une usine électrique que peut-être vous connaissez, à Capdélia, l'usine électrique. Et bien c'est mon père qui était adjoint au directeur, qui à l'époque s'appelait Keller. Je me suis toujours rappelé parce qu'on connaît, on a un ami qui s'appelle Keller. Et donc, mes parents étaient restés comme moi, j'étais très fragile, ma vraie mère alors, avait été malade, j'étais restée chez mes oncles ici à Toulouse, et ma cousine, elle avait 15 ans de plus que moi, alors j'étais la poupée vivante, ce qui fait qu'ils s'étaient pris d'amour avec moi, et c'est pour ça que j'ai été élevée toujours à Toulouse.
On continue, la famille Granger. On va parler de la famille Granger. Joseph Granger, le père, et Maria Beleta, la mère, on est en 8 enfants. Conchita était, je l'avais dit avant, la cinquième, la dernière fille. Trois garçons naquirent plus tard. Les parents biologiques, Joseph et Maria, on a vu tous sa vie à Capdélia jusqu'à la mort. Ici, il y a une photographie de la maison où habitait la famille de Conchita à Capdélia, avec une signalisation du Mémorial démocratique, et des photos avec la famille Conchita, avec ses frères, sa sœur et les parents. Toutes ces photos sont à Capdélia. On peut parler de Conchita à Toulouse, la famille Beleta vivait dans le quartier de Bonnefoy. Conchita fréquentait l'école locale et était toujours très proche à sa cousine Maria Castelló. Maria Castelló et Maria Ferrer, lorsqu'elle est mariée. Son oncle Jaume, on tout le monde dit que bénéficiait d'un bon emploi, et d'une bonne position financière, il dirigeait une entreprise de construction. Jaume Beleta était en espagnol un nombre hecho a sí mismo. No sé cómo se. Il a émigré d'Espagne très jeune, avec 14 ans. Il a une grande influence sur Conchita. C'est très important dans la vie de Conchita, son oncle Jaume. L'année 36, la guerra d'Espagne, la famille, toute la famille, Jaume, Elvira, Maria, Conchita et Joseph Ferrer, le mari de Maria, on allait à l'Espagne pour combattre dans l'armée républicaine pendant la guerra d'Espagne. Jaume participa à la construction des aérodromes à Trevillage, à Balaguer, Aravei i Argelaguer, de la Provence de Lérida i de Girona, on hi ha una foto de Balaguer, que és el primer village on va la família. A Balaguer, on és un fill de Maria, Yolanda, i ha trobat la carta de l'aerodrom que en Jaume ha construït a Balaguer. Pendant son séjour a Balaguer, Conchita Puy, Revoir, c'est pagan. Balaguer et Capdella ne sont pas très loin. C'est pagan, c'est frère, c'est sœur. On allait à Balaguer pour rendez-vous avec Conchita. Début 1939, la famille retourna en France via Portbou avant la défaite imminente de l'armée républicaine. On finit la guerre d'Espagne trois mois après. De retour en France, la femme de la famille, Conchita, Maria, Elvira, fuguen envoyés à Pas de Calais, à Lieven, à la village de Lieven, avec beaucoup de familles espagnoles, femmes et petites enfants. Et quelques semaines après, ils fuguen autorisés à retourner à Toulouse. C'est le reste de familles espagnoles ont resté à Lieven quelques mois, mais la famille de Conchita deux ou trois semaines. Ils sont autorisés à retourner à Toulouse avant. Belletta, Jaume Belletta, fut interné dans un camp de prisonniers jusqu'à sa libération et il a retourné à Toulouse. Toute la famille se retrouva à Toulouse l'année 1939. Conchita, pendant ce moment, on a aidé à Maria à prendre soin de ses tres enfants. Maria, tres enfants. Il y a une photo de Lieven, au Pas de Calais, et une liste avec tous les réfugiés espagnols qui sont amenés à Lieven. On arrive à la Seconde Guerre mondiale, la famille aller de Toulouse à l'Ariège. Dans un moment de ces années, la famille décida de s'installer à la campagne, dans une ferme située à la commune de Goudas, au département d'Ariège. Dans ce moment, de nombreux républicains espagnols étaient concentrés dans le département de l'Ariège. Ils treballaient dans les chantiers, exploitations forestières, et il sembla que Jaume Belletta dirige certains de ces chantiers. Dans ce moment, de nombreux républicains espanyols étaient dans le camp de Bernet d'Ariège, et beaucoup ont allé à ces chantiers de le département. Ici, c'est la ferme, la maison on habita la famille Belletta, Maria, Elvira, Jaume i Conchita. C'est la maison on Conchita se detenir des arrestacions dans les mes de 44. I Jaume Belletta, sent jager dans la résistance a l'Ariège, dans la Col de Pi, avec la 3e brigade de guerrilleros espanyols, et dans ce moment concret, il fut dénoncé et contré de fuir en Andorre. Il allait à l'Andorre pour se réfugier. Dans ce moment, Elvira, Maria i Conchita començaren alors a col·laborar amb la resistants. Conchita n'ha bé que 17 anys, se l'anè cagant trois. On la surnomé Nina, Nies o Nebudo en raison de ser bien família avec Belletta. Conchita, Elvira i Maria on jugué un rol très important dans la resistants. Conchita assuré la liaison avec le maquis de Col de Pi, mais accomplissait aussi des missions très importantes. Ne sait pas uniquement la gent de liaison. On transportait des documents, dissimulation de résistants, transport d'armes, accompagnement de résistants que volaient fuir la France pour l'Andorre, pour la Catalogne. Són tres missions tres importants per moi. No és pas fàcil el rol que hi ha jugat Conchita, sa tante i sa cousine. On arriba a l'arrestació, la maison de Peny, la municipalitat de Goudas, on detenia la família, se l'he vencat més de l'any 44. Dans la maison, il y avait Jesús Ríos García, c'est un important chef de la guerrilla, il dormait dans la maison. Et Ríos, il fut blessé, il a mort plus tard à l'hôpital de Foix pour la milice et un membre de la milice on a mort également. Elvira Maria Conchita, son MNE, o siège de la Gestapo à Foix, puis à la prison de Foix et puis à la prison de Toulouse, à la prison de Saint-Michel. Dans ces photos, c'est la siège de la Gestapo à Foix. Conchita, Elvira, Maria, on subirait des interrogatoires de la violence des oppresseurs, mais elles ne trahiren pas les camarades résistants. On va passer un dernier vidéo. Conchita raconte sa arrestation et ses interrogatoires.
La milice française de Foix m'a arrêtée. Et elle a arrêté, il y a eu un échange de coups de feu parce qu'ils sont venus à la maison de mes oncles. Et il y avait les passeurs, il y avait deux passeurs et ils étaient armés parce que les passeurs venaient se ravitailler souvent. Et donc il y a eu un échange de coups de feu, il y a eu un milicien qui a été tué, un chef de trentaine qui a été tué et un des nôtres, un commandant des guerrilleros qui a été tué aussi. Et on nous a arrêtés toutes les trois, ma tante, ma cousine et moi. On nous a arrêtés, on nous a emmenés à la milice à Foix et ils nous ont mis à la prison de Foix. Et là, ils nous ont remis à la Gestapo. La Gestapo nous a fait les interrogatoires avec des fouets. On a été bastonnés, toutes les deux, surtout ma cousine et moi. Ma tante, ils ne l'ont pas touchée, peut-être parce qu'elle était plus âgée ou peut-être parce qu'ils ont trouvé que nous, plus jeunes, on pouvait parler. Mais nous, on n'a pas parlé. Et au bout de 7 interrogatoires, dans des jours différents, ils nous ramenaient toujours à la prison de Foix, puis ils nous ramenaient. Alors on avait, ma cousine et moi, on avait le dos et les fesses ensemble, avec les coups de fouet et de matraque, on était... Et la femme du directeur de la prison de Foix nous faisait sortir de la cellule dans le jardin et elle nous soignait, elle nous faisait des compresses. Elle a été formidable, cette femme. Et puis, voilà que la Gestapo, le dernier interrogatoire, le chef de la Gestapo me dit « Bon, tu n'as pas voulu parler, on va t'emmener à Toulouse, à la prison Saint-Michel, et là, ils ont les moyens de te faire parler. » Et ils nous ont emmenés toutes les trois à la prison Saint-Michel à Toulouse. On arrive à la prison Saint-Michel et on a vu revenir au bâtiment de femmes, pardon. On a vu revenir les femmes des interrogatoires et là, nos coups de fouet qu'on avait subis, c'était rien. Elles étaient torturées de la Gestapo d'ici de Toulouse. Eh bien, les jours ont passé et ce qui nous a sauvés des interrogatoires de Toulouse, ça a été le débarquement sur les plages normandes le 6 juin 1944, le débarquement sur les plages normandes des Alliés.
Bien, c'est Conchita qui a raconté très bien sa arrestation et son arrestation dans Goudas, Foix et Toulouse. Après, on commençait le voyage qui a mené à Conchita, Elvira et Maria au camp de concentration nazi. Début juillet 1944, ils commençaient leur périple vers le camp de la mort. C'est tout pour ma intervention. Après Virginie, on parlera de la déportation de Conchita et de son retour à Toulouse l'année 1945. Merci beaucoup pour votre compréhension.
Mémodio, une mémoire sonore.
Merci beaucoup, et Diego et Giuseppe. Là, on va avoir un quart d'heure et si vous voulez poser des questions, si vous avez des remarques, des retours. Est-ce que vous avez des questions?
Quand est-ce qu'on a commencé à parler de femmes de la résistance? Après la guerre? On a vraiment parlé après la guerre? Donc le silence en tant que, effectivement, le silence, je parle de silence dans le grand récit de l'après-guerre. Enfin, je parle de silence dans le grand récit, dans le récit officiel, dans la mémoire officielle, dans le processus de récupération de la mémoire, dans les processus de reconstruction de l'identité nationale qui a été occupée, on dirait, enfin, entre guillemets, quoi. Donc, c'est par rapport à ça. C'est pour ça que je parle de silence. Et c'est pour ça que je pose la question de quand est-ce qu'on a vraiment défi ces silences institutionnels, ces silences officiels. Enfin, et ça, on peut demander ça, on peut nous interroger par rapport à quand. On peut nous dire quand est-ce que les femmes résistantes ont trouvé leur place dans leur récit officiel. Est-ce qu'ils l'ont trouvé? Ah, comment? Très tardivement. Moi, je suis là et je suis pas sûr qu'on a réussi encore. C'est une question société. C'est une question qui ne touche pas que les femmes, en fait. C'est une question qui touche vraiment les masculinités. C'est une question qui touche vraiment la façon dans laquelle nous, on veut reconstruire, récupérer notre mémoire. Leur mémoire à eux, mais notre mémoire, parce que vous, enfin, en tant que vous faites partie de troisième, de quatrième génération déjà, enfin, on se pose toujours la question de comment est-ce qu'on doit adresser ce processus qui est toujours en construction. Donc peut-être qu'on peut se demander si jamais cette place-là, enfin, était déjà assurée pour les femmes ou pas. C'est quelque chose de bien qu'on vient ici parler de Conchita. Au moins elle... Elle est reconnue, enfin, on l'a vu, elle est reconnue par une initiative en Espagne, en Catalogne. Enfin, on vient ici, effectivement, elle est reconnue en France, etc. etc. Elle a eu d'extinctions, elle a eu de condécorations, elle a eu des hommages. Oui, voilà. Mais il n'y a pas que Conchita. Enfin, il y en a beaucoup. Mais en fait, il y en a quelques qu'on ne va jamais savoir, qu'on ne va jamais connaître. Parce que quand je disais, leur contribution était d'une nature tellement clandestine, tellement connectée, liée à des activités du quotidien de femmes à l'époque, qu'ils ne sont jamais revendiqués, ils ne sont jamais demandé quelque chose pour être reconnus comme des résistants. On ne va jamais arriver. C'est pour ça que j'essayais de vous faire rentrer dans la discussion, effectivement.
Vous m'excusez pour ma voix qui est un peu cassée. Bon, vous avez parlé de l'invisibilité des femmes résistantes. Moi, j'ai travaillé dans les études de genre à l'Université de Toulouse, le Mirail, maintenant Jean Jaurès. Et c'est grâce aux études de genre qu'il y a eu une première visibilité des femmes résistantes en France et ailleurs. Alors moi, je voulais parler de Neus Catala, que peut-être vous connaissez. Bon, Conchita, je l'ai connue aussi, je l'ai interviewée. Neus Catala, qui était une résistante communiste, qui était aussi à cheval entre l'Espagne et la région toulousaine. Et dans les années 80, j'avais été informée de cette dame, qui était une résistante, qui a fait partie du convoi du train fantôme. Et elle venait... Non, pas du train fantôme. Bon, elle a été déportée, excusez-moi. Donc, elle a une amie espagnole me l'avait présentée et m'avait demandé si je pouvais la faire intervenir dans le grand amphi de la fac du Mirail. J'avais pas les moyens. J'étais à l'équipe Simone, qui était une étude sur les rapports sociaux de sexe. Et on avait fait l'affiche à la main, au feutre. Neus Catala viendra vous parler. Elle avait écrit un livre, Ces femmes espagnoles de la résistance à la déportation, où elle a interviewé une série de femmes. Et elle n'arrivait pas à faire publier son livre. Et dans les femmes résistantes, il y avait Geneviève Antonio de Gaulle, enfin, etc. Bon, j'abrège, ce livre existait. Elle voulait le faire éditer. Alors, elle cherchait des personnes qui pouvaient l'aider. Donc, j'ai convoqué, avec l'aide de la présidence de l'université de l'époque, une conférence de Neus Catala. Et vous voulez savoir combien on était? On était 15 à peu près. voilà, 15. C'était dans les années 90. Alors, quand vous parlez de l'invisibilité, moi, ça me parle beaucoup. Je dis, il y a encore du travail à faire et toutes ces femmes ignorées, bon, qui n'ont pas parlé, qui ont été silenciées, etc., qui considéraient que c'était normal, naturel de faire ce travail. Et il y en a des tonnes, il y aurait des tas de livres à écrire encore.
Il y a un processus d'éducation aussi dans lequel s'étaient plongées toutes les femmes de l'époque, parce qu'effectivement, c'est ce que je disais par rapport à l'hétéropatriarcat qui a vraiment imposé sa règle. Enfin, ça nous parle toujours de à quel point les femmes ont été vraiment éduquées pour ne pas s'interroger pour c'est ce qu'ils ont fait d'autres femmes à l'époque. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant de voir l'évolution des études de genre aussi à partir des années 70, on dirait, voilà. Enfin après, mais c'est vrai que ça vient un peu plus tard. Enfin, ici en France, je parle même pas de l'Espagne parce que c'est plus tardif encore. Mais effectivement, bah, on voit bien que il y a eu comme ces cas-là de Neus, des initiatives qui ont resté tout d'abord, enfin dans un deuxième plan, on dirait, et qui par contre là maintenant, Margarita, sa fille, enfin. Elle continue à faire le travail de diffusion, de vulgarisation, on dirait en France, c'est ça ? De vulgarisation de l'histoire familiale, de la souffrance de sa mère, de l'expérience de déportation de sa mère. Elle continue à le faire, elle continue à communiquer. Et il y a vraiment une différence entre les 15 qui sont fait partie de ces rencontres-là que vous nous racontez et le pouvoir de convocatoire, on dirait que Margarita est là à ce moment-là, parce que je me souviens la dernière fois qu'on était, je sais pas si c'était la dernière fois ici à Toulouse, mais il y avait Margarita, ça faisait
ouais, en 2024,
et la salle elle était pleine, quoi. Enfin, donc tu vois, ça c'est vraiment quelque chose du bien qu'on a peut-être réussi à changer, ou qu'on essaye de continuer à changer, donc peut-être qu'on doit. Oui, oui, tout à fait, oui, oui, effectivement. Et c'est par rapport à. C'est aussi. Enfin, il faut reconnaître vraiment, il faut remercier Margarita parce qu'elle continue à développer l'engagement de sa mère au niveau de la diffusion, de la divulgation de cette histoire. Et c'était très intéressant qu'elle le fasse en tant que fils de quelqu'un qui a vécu, mais en tant que, enfin voilà, une autre génération qui connecte, enfin, d'une façon différente avec la mémoire, parce que on voit bien qu'il y a vraiment la connexion, l'interconnexion, on dirait, entre mémoire, la mémoire des témoignages, enfin vraiment, mais aussi de la mémoire de ceux qui sont, enfin on dirait de, je sais pas comment dire, de protagonistes de l'époque, mais par procuration, on dirait. Et c'est intéressant aussi au niveau de l'analyse de récits, au niveau de l'analyse de la transmission de cette mémoire. Donc, je crois que voilà, c'est imprescindible d'avoir des femmes comme Neus, effectivement, mais bien sûr comme Margarita aussi. Voilà, merci.
Oui, parce que là, on est en train de parler de mémoire, et la mémoire, il faut la cultiver et la conserver, mais il faut la transmettre. Et moi, c'est de l'expérience des lycées par lesquels je suis passé, et donc de l'enseignement. Et ce qu'il en a été, et je me rappelle des années 90, où, par exemple, le concours de la résistance est organisé. Et c'est à ce moment-là, pour ce qui est du lycée, que les élèves découvrent qu'il y a autre chose aussi que la résistance en armes avec la mitraillette, déjà, et que les femmes, non seulement elles aussi, ont tenu la mitraillette, mais ont eu aussi un grand rôle. Alors il y a eu quelques films, mais ça a été sur des figures. Il y a eu quelques livres, et je pense, puisque en entrant au musée, tout le monde voit que la résistance doit se conjuguer aussi au présent, hein, Lucie Aubrac par exemple, hein, et le film qui a été fait, et pour ce qui est de la résistance des Françaises, hein. Et c'est vrai que la part de résistance a été complètement occultée, et à l'école aussi, ici à Toulouse, pour ce qui est de la résistance, avec une figure encore, hein, Françoise, et il y a un lycée Françoise. Mais les élèves du lycée Françoise, qu'est-ce qu'ils en savent de cette personnalité? Eh bien, fort peu. Et le travail qui est fait par les collègues professeurs d'histoire, il est récent. Il y a quelques années aussi, un certain Nicolas, porteur de bracelet, avait incité les établissements scolaires à relire une lettre, la lettre de Guy Môquet. Et c'est pareil, on avait organisé dans les établissements des participations à des tables rondes avec des personnes résistantes, et les résistantes, il y en avait fort peu, hein, et c'était des hommes qui étaient là. Alors par contre, quand il s'agissait de la déportation, effectivement, il y a eu quelques survivantes présentes, mais la part des hommes dans la transmission de cette mémoire auprès des jeunes, parce que c'est ça qui compte aussi, hein, ben, elle est difficilement mise en place par l'institution scolaire, par exemple. Voilà. Et très peu dans les manuels scolaires. Hein. Voilà.
Merci. Et est-ce qu'il en retour est...
Enfin, non. Mais c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire?
C'est vrai.
On peut faire le retour par rapport à la comparaison de ce qui se passe en Espagne. Mmh. Enfin, vraiment, enfin, François, ici, il n'y a personne qui... Non, pas personne. Eh bien, il y a trop peu de lycéens qui connaissent François. Imagine combien de lycéens connaissent Paco Ponzan dans l'Aragon. Eh bien, c'est juste un exemple, c'est vite fait, parce que voilà, c'est la connexion. Mais c'est deux mémoires qui sont complètement différentes, mais qui se sont touchées deux fois, oui, bien sûr. Mais c'est du politique éducatif complètement différent aussi. Et heureusement que vous savez le concours de la résistance, enfin, parce que nous, on n'a pas ça. Voilà. Déjà, enfin, c'est la lutte pour enfin, ne pas oublier l'histoire de ceux qui sont partis enfin, de l'Espagne. Voilà, des années 20, des années 30, c'est ce qui s'est passé avec leur vie, pourquoi ils se sont engagés dans la résistance, pourquoi pas, parce qu'on parle trop peu de ceux qui n'ont pas fait la résistance, parce qu'ils ont fait des choses aussi. Mais effectivement, bah, c'est dommage. Et c'est vraiment le défi d'arriver jusqu'à les lycéens, en fait. Nous, on a de petites expositions itinérantes, on dirait. Dans l'Aragon, on fait des collaborations avec ça. Il y a des petites expositions en itinérance. Et comme ça, au moins, on a l'opportunité de faire partie aux élèves de cette histoire, qui font un peu un parcours de l'exposition avec une questionnaire à remplir. Voilà, enfin, on peut. Mais c'est des initiatives qui sont dehors, vraiment dehors de la politique officielle, parce que ça vient des associations de la récupération pour la mémoire qui sont mis en œuvre cette exposition, qui sont mis les moyens pour développer l'exposition, pour payer, c'est ce qu'ils ont fait l'expo, et puis pour continuer à te connecter avec des gens qui sont engagés à dire voilà, aujourd'hui, même si j'ai mon boulot, bah, on va faire la visite guidée pour les élèves, parce que c'est un peu ça, mais c'est toujours vraiment vraiment la lutte pour rentrer là.
Alors, moi, je vous demanderais, oui, vu les silences des 40 ans, l'évolution qui s'est fait progressivement, lentement en Espagne, on va dire, hein? Bien, combien de générations il faudrait pour que la vraie histoire de la guerre d'Espagne, elle soit connue des générations qui sont actuelles et des générations futures? Vous voyez le contexte espagnol. Dans la France, on a toujours connu un peu plus qu'en Espagne, je suppose. Voilà, c'était ma question.
C'est une question très intéressante, en fait.
Je ne sais pas, hein, mais je vous la pose.
Ouais, c'est pour moi, c'était très intéressant parce que je crois pas. En fait, je suis convaincu de que la guerre d'Espagne, enfin, c'est bien connu en Espagne. Ça, je sais que, enfin, parce que on a eu plusieurs générations des historiennes et des historiens que ils sont bossés pas mal. Donc, on connaît en détail tout ce qui s'est, enfin, pas tout, mais on connaît. Là, vraiment, comment ça a été la guerre, la répression, etc. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour arriver aux jeunes, à des nouvelles générations? Et là, vraiment, je ne sais pas, je crois qu'il y a un double défi. Le défi, d'abord, c'est de essayer d'avoir un récit qui soit scientifique, on dirait. Enfin, pas, excusez-moi, scientifique entre guillemets, mais vraiment, qui soit, enfin voilà, enfin contre, enfin je sais pas comment dire, enfin. Oui, voilà, c'est ça. Le mot que je cherchais, c'était ça. Rigoureux, pardon. Et après, il y a la question de la diffusion. Parce que on parlait tout à l'heure en mangeant, enfin tous ensemble, si on croyait qu'on va arriver aux jeunes via le livre qu'on a écrit jusqu'à là, on est plus là. Hein. Enfin, je suis désolé, mais on n'est plus là. Enfin, il faut vraiment donner la bataille dans de différents formats. Et ça va ouvrir un melon, enfin, comme on dit en Espagne, énorme au niveau de quel format il faut explorer pour arriver aux jeunes, avec un récit qui soit rigoureux, comme on disait, mais qui arrive aux jeunes, qui prennent et qui va réussir à attirer leur attention. Parce qu'après, c'est ça. Hein. On est là. Et c'est ce qui n'est pas là. Ça n'existait plus. Hein. Ça n'existait pas. Donc, c'est vraiment le... Et on parlait tout à l'heure avec Jordi, avec Giuseppe. Enfin, qu'est-ce qu'on fait, là? Enfin, vraiment, enfin, c'est une question de comment on le fait. On sait bien qu'est-ce qu'on veut dire. Mais comment on fait pour arriver? Ouais, parce qu'on n'arrive pas. Et vraiment, même même à la fac, on n'arrive pas. Ça, c'est dingue. Mais même à la fac, on n'arrive pas. Donc, c'est vraiment une question qui c'était, comme je disais, que je trouve très intéressante parce que vraiment, à ce moment-là, on est en train de réfléchir. Et pendant qu'on prend le temps de réfléchir parce qu'on veut bien se préparer, enfin, on veut le faire bien, quoi. Enfin, on veut. Pendant ces moments, il y a d'autres récits qu'on était alimentés par la droite et par l'extrême droite qui sont déjà mangés tous les gâteaux dans leurs réseaux sociaux. Donc, et il faut savoir que le jeune, il s'arrête pas de consommer ces types de récits. Il ne s'arrête pas de consommer aux réseaux sociaux.
C'est plus facile de consommer ces récits que de réfléchir.
Alors tout à fait. Ouais. Oui. C'est parce que c'est des récits qui sont faits pour consommer, pour être consommés.
En castellano, lo traduce. Yo creo que a todo lo que explica Diego se añade un problema añadido en este momento en España, que es la situación política, social que estamos viviendo, que como decía...
Comme disait Diego, il veut souligner Giuseppe, il a un problème politique en Espagne, il a un manque de consensus. Qui?
Non, et que, hablando un peu de ce que contaba Diego, creo que los postulados revisionistas ou de, digamos, de sentido contrario, nos están ganando la batalla de las redes sociales y de la difusión entre los jóvenes. Y esto es culpa de todos.
La guerra cultural es la extrema droite, la extrema droite que entête. Y esta guerra se celebra notamment dans les réseaux sociaux, dans l'univers numérique.
Mira, en mi casa yo somos cuatro hermanas. Mi padre, Pablo y Carmen ha venido en Francia por la guerra de España. Han tenido que venir aquí. Pero, ah oui, je vais parler français, pas de problème. Et si vous voulez, on a toujours transmis à nos enfants et à nos petits-enfants l'histoire de nos parents, de nos grands-parents. Et par rapport à mes petits-enfants, leur arrière-grands-parents, puisque moi je suis la grand-mère. c'est une question d'éducation. Et nous avons été élevés dans une famille, nous avons été éduqués. Éduqués avec une conscience très élevée. Très élevée. Et nous agissons de la même façon, chacune de nous, les quatre sœurs, pour nos enfants et nos petits-enfants. On peut transmettre l'histoire de la guerre d'Espagne. Il faut prendre le temps et on peut le transmettre. Moi, je ne compte pas sur l'école pour ça. C'est nous, famille, si l'école ne le fait pas, qui va le faire ? La famille.
Merci beaucoup.
Mémodio, une mémoire sonore.